Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julie Delabrosse, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'actualité écho décryptée par des chercheurs, des acteurs et des journalistes, c'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Aujourd'hui, on s'intéresse au commerce mondial et à ses bouleversements. Il y a quelques jours, Donald Trump réussissait à imposer un nouvel accord à ses deux plus proches partenaires économiques, le Canada et le Mexique. L'ALENA est devenue l'accord États-Unis-Mexique-Canada. La mention du libre-échange, elle, a disparu dans le titre. Une semaine auparavant, c'est la Corée du Sud qui pliait face aux pressions américaines en signant un nouvel accord commercial avec les États-Unis. Deux traités qui ont été amendés à la marge, mais qui illustrent les nouvelles pratiques commerciales et témoignent d'un ordre économique mondial en réinvention. Un mois avant les élections de mi-mandat, Donald Trump est-il en train de gagner la guerre commerciale ? Quelle tournure cette bataille peut-elle prendre et quelles seront ses conséquences sur la croissance mondiale ? Et plus largement, comment repenser aujourd'hui le commerce international ? Voilà les questions que l'on va poser à nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Jézabel Coupé-Soubéran nous parle d'un essai d'Albert Hirschman intitulé « Deux siècles de rhétorique réactionnaire ». Trois invités autour de la table, donc, je remercie d'être là. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, qui vient de publier son ouvrage annuel, L'économie mondiale en 2019. À vos côtés, Jean-Éric Branaa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous maître de conférence à l'Université Paris 2 à Sas, chercheur associé à l'IRIS, et vous avez publié « Quand l'Amérique gronde 1968-2018 », publié chez Priva. Et enfin, Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous journaliste, éditorialiste aux Échos, et parmi vos livres, je citerai celui-ci, pour une gouvernance mondiale, paru aux éditions Autrement.
Nous avons conclu avec succès les négociations d'un tout nouvel accord visant à mettre fin à l'ALENA et à le remplacer avec un nouvel accord incroyable entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, appelé AEUMC. Nous ne le prenons pas comme un privilège. C'est un privilège pour eux de faire affaire avec nous. Et je ne parle pas du Mexique, du Canada. Je parle de tout le monde. Tout le monde. C'est un privilège pour la Chine de faire affaire avec nous. C'est un privilège pour l'Union européenne qui nous a très mal traités. Et ça s'arrange.
Voilà, Donald Trump avait promis de déchirer l'ALENA. Finalement, il a été remplacé par cet accord États-Unis-Mexique-Canada. Ce nouveau texte, c'est une victoire pour Donald Trump, Sébastien Jean.
Alors c'est clairement, on vient d'entendre ça, la façon dont il présente les choses, c'est clairement le message qu'il veut faire passer. C'est une victoire politique. Je vous avais dit que moi, je sais faire des deals. Vous avez dit que j'allais changer l'ALENA. Voilà, en un an, je l'ai fait, je l'ai changé. Et donc, effectivement, en plus, un mois avant les élections de mi-mandat, ça tombe assez bien pour lui. Donc, le message est très clair. Maintenant, je pense qu'après, notre rôle, quand on essaie de comprendre ce qui se passe, de l'analyser, c'est d'essayer de faire ce bilan. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord avec la Corée? Qu'est-ce qui se passe dans les négociations avec l'Union européenne et d'une façon générale dans cette politique commerciale américaine? Et là, il me semble, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il me semble que ce que l'on voit, c'est le fait que Donald Trump a commencé par être très agressif, disons, avec ses alliés historiques, avec la Chine finalement plutôt un peu moins au départ, et puis au début de l'été, il y a eu une sorte de retournement où il a commencé à être plus conciliant avec ses alliés historiques, plus dur avec la Chine. Là, je pense que la nature de la tension commerciale avec la Chine a changé. On est plus sur un conflit stratégique. On va y revenir longuement, certainement. Et les annonces qu'il vient de faire là, c'est très frappant parce que ce sont des accords dans lesquels, en fait, il dit c'est merveilleux, c'est nouveau, c'est historique. Puis quand on regarde le détail, il y a assez peu de choses de nouvelles dedans. Et surtout, ce qui est nouveau dedans est assez peu différent de ce qui a été fait dans le TPP, dans le partenariat transpacifique, qui est le premier accord qu'il a commencé par jeter à la poubelle en arrivant. Or, à quoi servait le partenariat transpacifique ? À passer des accords, à essayer de mettre en œuvre une politique d'endiguement économique de la Chine. Donc, on est presque à se demander, est-ce que Donald Trump a mis 2 ans à comprendre la stratégie d'Obama ? Si j'ironise un peu, disons, voilà, puisque ça revient un peu à faire la même chose, mais avec un affichage politique très différent.
On va voir si Donald Trump, effectivement, continue la stratégie d'Obama, mais avec des méthodes différentes. Mais d'abord, sur ces nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada, est-ce que le Canada et le Mexique ont véritablement fait des concessions, Jean-Marc Vittori ? Et qu'est-ce que Trump, au fond, reprochait à l'ALENA, qui avait été signé, je le rappelle, par Bill Clinton en 1994 ?
Alors, dans cet accord, le Mexique et le Canada ont fait quelques concessions aux États-Unis. Rien de majeur, rien de révolutionnaire, comme le disait Sébastien Jean à l'instant. Mais symboliquement, c'est évidemment très fort, hein, puisque pendant sa campagne électorale, Donald Trump avait clairement dit qu'il casserait l'ALENA et qu'il parviendrait à faire un nouvel accord. C'est ce qu'il a fait. Alors ensuite, le contenu, je dirais, peu importe, on est vraiment dans de l'affichage politique pur.
Et alors, lors de la signature de ce nouvel accord, Donald Trump a promis, encore une fois, de faire des États-Unis une grande puissance manufacturière. C'est ça qui se joue derrière cette renégociation des accords de libre-échange en général et de cet accord avec le Canada et le Mexique en particulier, Jean-Éric Branard.
Alors en partie, oui. Et vous avez entendu dans la dialectique, hein, c'est un grand accord, voire le plus grand accord qui a été
signé.
Un accord
incroyable.
Bien sûr. Ce qui est certain, c'est que effectivement, les 3 pays ensemble sont maintenant une force qui compte au niveau du commerce mondial et Donald Trump a bien insisté là-dessus et il a eu raison de le faire. Je crois, pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, que c'est aussi une victoire pour Donald Trump pour 3 raisons. La première, c'est d'abord parce que c'est une promesse de campagne tenue et promesse largement répétée et qui avait quand même beaucoup d'importance en Amérique du Nord, même si pour nous ça nous parlait moins parce que c'était un commerce nord-américain qui ne nous intéresse pas tant que ça a priori. La deuxième, c'est parce qu'il s'est adressé à une région très particulière aux États-Unis qui est la ceinture de la rouille, la Rust Belt, l'endroit où vous trouvez l'industrie américaine, mais aussi les agriculteurs. Et en ouvrant un peu plus, en faisant sauter légèrement le verrou de l'agriculture canadienne, il a quand même remporté une victoire symbolique, certes pas très énorme, mais quand même, qui fait beaucoup de remous actuellement au Canada. Et puis sur l'ensemble, on va dire que Donald Trump a montré qu'il était quand même capable d'avancer, et notamment sur une base qui lui tient à cœur, c'est le bilatéralisme, puisqu'il est allé négocier d'abord avec le Mexique, puis avec le Canada, alors qu'on avait entendu les deux protagonistes pendant très longtemps nous dire que jamais les négociations ne pourraient aboutir de cette façon-là. Et là-dessus, c'est aussi une victoire très importante pour le président américain.
La méthode de Donald Trump, c'est l'imposition brutale de taxes douanières, ou au moins la menace pour ensuite renégocier les accords commerciaux. C'est aussi ce qu'on a vu avec la Corée du Sud, Sébastien Jean.
Oui, on a vu une technique de négociation finalement assez typée, c'est-à-dire je commence par essayer de déstabiliser avec des annonces fracassantes, quitte à être très agressif. D'ailleurs, on le voit aussi en termes de politique étrangère, bien entendu, avec la Corée du Nord. Pour déstabiliser les partenaires, pour les amener à la table de négociation. Ensuite, je discute et après, je veux arriver à un accord. Maintenant, on a l'impression un peu du joueur de poker et c'est à la fin de la partie qu'il faut juger ce qu'il a fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, quand j'essaie de faire le bilan de tout ça, ben, je regarde le résultat. Et donc, effectivement, il a obtenu des concessions. C'est bien le moins. Je veux dire, quand on est l'homme le plus puissant du monde, et c'est le cas, quand on a 700 milliards de budget militaire par an, je veux dire, évidemment, ça rend les interlocuteurs plus conciliants, hein, sur beaucoup de choses. Donc, il a obtenu des choses. Mais là, par exemple, on a beaucoup glosé autour de ce marché laitier du Canada. 3,6% du marché des produits laitiers au Canada. Gain estimé par une banque américaine, 70 millions de dollars. Mais une goutte d'eau, c'est ridicule. Et c'est ridicule, non, c'est bien pour les gens, enfin ça compte dans le secteur, mais à l'échelle de l'économie américaine, ça ne compte pas. Et en plus, c'était à peu près ce qui avait été obtenu dans le TPP. Donc, est-ce que vraiment il était nécessaire de déstabiliser la relation bilatérale pour obtenir ce genre de choses ? Économiquement, je crois pas. Je pense que les conséquences, on les verra à long terme. Et d'ailleurs, juste, je finis là-dessus, je note que le président de la Chambre de commerce canadienne a déclaré le lendemain de l'accord, il faudra qu'on sache tirer les leçons de ce qui s'est passé, enfin je dis en substance, c'est-à-dire ne plus s'exposer aux caprices d'un seul partenaire commercial et diversifier nos relations commerciales.
Alors on assiste depuis le début de l'année 2018 à un bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Trump avait ouvert les hostilités en janvier en décidant de mettre en place des taxes douanières sur les machines à laver et les panneaux solaires. Et depuis, à chaque nouvelle salve de taxes douanières, Pékin a riposté. Alors qu'est-ce que les États-Unis cherchent à obtenir de la Chine et est-ce qu'on peut dire qu'ils ont de plus en plus de chances de parvenir à leur fin, Jean-Marc Vittori?
Alors déjà, il faudrait pas dire les États-Unis, mais Donald Trump. Hein. Donald Trump, il cherche des victoires symboliques. C'est ce qu'il a obtenu au Mexique et au Canada. C'est ce qu'il veut obtenir de la Chine. Il y a un déficit commercial absolument colossal des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Il veut pouvoir donner des victoires symboliques à son électorat. Il pense à son électorat comme aucun président américain ne l'a jamais fait. Et donc, ce qu'il cherche, c'est des victoires symboliques. Et donc, ça veut dire peut-être déplacer des productions qui viendraient de la Chine vers les États-Unis, mais ça paraît hautement improbable. C'est sans doute plus vraisemblablement obtenir que la Chine ouvre davantage ses barrières. Donc, son seul but, c'est de pouvoir montrer à son opinion qu'il a obtenu des choses. Et dans le cas de la Chine, comme souvent avec Donald Trump, il mélange à la fois de l'exagération, de l'emphase, des positions de négociation. Il faut se rappeler que pendant 50 ans, Donald Trump, ça a été un promoteur immobilier. Un promoteur immobilier, ce qu'il sait faire, c'est négocier, c'est arracher le bout de gras, négocier le paquet de ciment, négocier la taxe locale, tout ça. Il sait très très bien faire ce que ne sait faire aucun autre chef d'État ou de gouvernement dans le monde à ce point.
Et donc il y a une part de rhétorique et une part d'argument contre la Chine qui sont partagés par exemple par l'Union européenne.
Donc il y a ça, mais donc il y a de la rhétorique, il y a de la négociation, mais derrière il y a aussi des vraies questions. Et il fait un mélange inextricable de ces différents points. Et sur la Chine, on sait bien que l'accord qui avait été conclu pour que la Chine entre dans l'Organisation mondiale du commerce au début des années 2000 comportait un certain nombre de faiblesses. On a découvert au fil du temps que c'est l'ampleur de ces faiblesses sur le droit là. sur la protection de la propriété intellectuelle, sur la possibilité de remporter des marchés publics en Chine, voilà, sur toute une série de points, on sait qu'il y a des faiblesses majeures, et donc Donald Trump mêle de manière inextricable ces vraies questions avec des choses qui sont beaucoup plus discutables.
Est-ce que ce que Donald Trump ne peut pas supporter, Jean-Éric Brana, c'est le fait que la Chine refuse désormais de faire profil bas, récusant en cela la doctrine de Deng Xiaoping qui préconisait, je cite, de cacher ses talents et d'attendre son heure?
Ah, très certainement. C'est vrai que là, ce qui se joue, c'est effectivement la suprématie. Alors aussi, on est dans le symbolique et dans le stratégique, les deux à la fois. Mais pour Donald Trump, il s'agit effectivement, c'était dans son slogan de campagne, de rendre la grandeur à l'Amérique, qui a été perdue. Parce que lorsque Ronald Reagan arrive à faire tomber le mur de Berlin, qu'on a l'affaissement de l'Union soviétique, on n'a qu'un seul grand à ce moment-là. Et on voit la Chine monter assez rapidement, somme toute, ce qui va déplaire à beaucoup d'Américains, parce que si on regarde l'histoire, en réalité, il y a déjà pas mal de présidents américains qui ont agi comme Donald Trump. Je vous rappelle, avant 1934,
pas à ce point-là.
Avant 1934, tous les présidents, à part Wilson, sont dans le protectionnisme. C'est pas la même chose, c'est pas la même ampleur. Je vous l'accorde bien volontiers. On n'est pas dans un commerce mondial très étendu, mais c'est quand même la même racine. C'est fait de la même façon. C'est une vieille rengaine républicaine que nous avons là. Ce protectionnisme, il ne fait que le faire ressortir, auquel il ajoute une donnée qu'il y avait également à cette époque-là, le nationalisme. Et là, je suis dans le cœur de votre question. Ce nationalisme vient s'opposer, bien sûr, avec fracas à cette montée de la Chine. Aujourd'hui, on a notamment le programme Chine en 2025 qui est en train d'arriver assez brutalement. Donald Trump veut y mettre fin parce que on s'est presque perdu, j'ai envie de dire, sur les échanges, et il y a le feu dans la maison.
Les États-Unis ont imposé le mois dernier une taxe de 10% sur 200 milliards de dollars de produits chinois. À partir du 1er janvier 2019, cette taxe montera à 25%. Alors, quelles sont déjà et quelles pourraient être les conséquences de cette guerre commerciale pour l'économie chinoise, Sébastien Jean? Est-ce que la Chine peut tenir longtemps dans ce bras de fer?
Oui, la Chine peut tenir longtemps. parce que la Chine est une immense économie qui est la première puissance industrielle au monde, le premier exportateur de services, etc. Mais pour l'instant, disons, il faut bien rappeler que tout ça est très frais, très récent. C'est-à-dire que les mesures américaines contre la Chine, il y a eu une première partie pour un peu plus de 30 milliards début juillet, hein, ensuite fin août, la fin septembre. Donc, il est trop tôt pour voir se matérialiser les impacts. Ce que j'observe, et c'est qu'il y a une vraie inquiétude, effectivement, côté chinois. Parce que ils savent qu'ils vendent plus de 500 milliards de produits annuellement 500 milliards de dollars aux États-Unis, et que si cet accès au marché américain leur est significativement barré, ça va poser un gros problème de débouchés. Ils vont avoir une bonne partie de leur industrie qui va se retrouver avec des masses extravagantes de production, de produits qu'ils vont devoir caser. Et ça va être extrêmement difficile de trouver un remplacement à ça. Donc, les Chinois ne veulent pas le conflit, ils l'ont pas demandé. Eux-mêmes, ils sont plutôt à essayer de faire comprendre que il faut que les Américains affichent clairement leurs objectifs et qu'eux sont prêts à discuter. Donc, dans l'immédiat, ils font profil bas, ils disent bon, dites-nous un peu ce que vous voulez, on est prêt à négocier. D'autre part, ils montrent que par rapport aux autres, ils sont beaucoup plus conciliants. Donc, ils ont baissé leur droit de douane sur un certain nombre de produits, notamment les automobiles. Les automobiles, c'est très important en ce moment. Ils ont fait avancer et presque conclu les négociations pour une zone de libre-échange en Asie. Très important également. Donc, ils se montrent conciliants par rapport aux autres. Et puis, dans le même temps, ils mènent une politique de relance conjoncturelle, à la fois par des coupes fiscales. Hein, la relance fiscale cette année en Chine est du même ordre que celle mise en place par les États-Unis avec la réforme fiscale de décembre dernier. On le note pas souvent, mais elle est même un peu supérieure. Et en même temps, une relance de politique monétaire. Donc, ils prennent les devants du ralentissement pour en accélérant l'économie.
Parce qu'en même temps, l'économie américaine affiche une excellente santé. Jean-Marc Vittori, 4,2% de croissance au deuxième trimestre, un chômage au plus bas depuis 50 ans, une inflation modérée. On a le sentiment que les États-Unis ne subissent pas du tout les conséquences de cette bataille commerciale engagée avec la Chine.
De toute façon, cette bataille ne fait que commencer. Il faut savoir si elle sera réellement appliquée. Vous évoquiez les 10% de droits de douane dès maintenant et 25% sur 200 milliards. A priori, c'est des masses énormes. Mais c'est pas la Chine qui va payer ça. C'est aux États-Unis, les acheteurs des produits chinois. Se pose toute une série de questions. Est-ce que les entreprises qui achètent les produits chinois vont répercuter les hausses sur le consommateur? On va se dire a priori oui. Sauf que il y a même des marchés qui sont assez compétitifs à l'intérieur des États-Unis et que les entreprises viennent par ailleurs d'avoir un énorme cadeau fiscal, donc elles peuvent ne pas augmenter leurs prix, préserver leurs marges. Voilà, donc il y a une mécanique qui est extraordinairement compliquée. Sébastien prenait presque l'hypothèse que les importations américaines en provenance de Chine allaient diminuer de façon sensible, mais on n'en est pas du tout sûr aujourd'hui. La mécanique est encore très compliquée. Et encore une fois, c'est des droits qui ont été imposés, qui sont entrés en vigueur. Mais dans un mois, il y aura peut-être des négociations très fortes et ces droits vont sauter. Encore une fois, Trump, c'est d'abord un négociateur. Son objectif, c'est pas de fixer des droits de douane. Son objectif, c'est d'obtenir des victoires symboliques à montrer à son opinion.
Sauf qu'à la veille des élections de mi-mandat, on sait que Trump a veillé à ce que ce ne soient pas directement les consommateurs, mais les entreprises américaines qui soient touchées par les nouvelles taxes douanières. Sauf que ça va disparaître à un moment donné. Les consommateurs devraient finir par être touchés.
Oui,
Sébastien Jean.
C'est intéressant parce que dans la première vague de mesures contre les importations chinoises, justement, l'administration américaine a évité les produits de consommation pour éviter d'avoir un impact trop direct sur l'inflation et que ce soit perçu dans le jeu politique américain comme une taxe sur les consommateurs, ce qui est évidemment très impopulaire. Donc, ils ont surtout taxé des biens intermédiaires, donc des achats des entreprises. Mais ça, c'était possible sur 50 milliards au départ. Quand on passe à 200 milliards ensuite, ben là, c'était plus possible. Et donc, dans la nouvelle, dans le nouvel ensemble, il y a une partie très significative, plus d'un, je crois, aux environs d'un tiers, qui correspond à des biens de consommation.
Mais les jouets ont été évités parce que, les jouets ont été évités.
Tout ça est très politique. Ouais. Tout ça est très politique et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Marc. L'impact commercial va vraiment dépendre de la durée. Là, pour l'instant, ça se caractérise par l'incertitude. Si, de façon pérenne, il y a 25% de droits de douane sur les importations chinoises américaines en provenance de Chine, ça va considérablement baisser les flux, d'après nos estimations, enfin les estimations qu'on peut faire, de l'ordre de la moitié. C'est colossal. Mais on n'en est pas là.
Par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que plusieurs grands groupes américains sont présents en Chine, notamment Boeing. General Motors vend plus de voitures en Chine qu'aux États-Unis. On peut dire que les chaînes de valeur, c'est l'instrument le plus efficace contre le protectionnisme finalement, parce que dès qu'on taxe des produits importés, on accroît le coût du produit final, Sébastien Jean.
C'est un peu ce qu'on pouvait se dire. Je dirais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que effectivement, on le voit là, les protestations des industriels américains sont extrêmement fortes. Hein, et donc, ils essaient d'expliquer à l'administration américaine que ça va considérablement ralentir leur coût, désorganiser leur chaîne d'approvisionnement, etc. Et la réponse de l'administration, c'est de dire, très bien, alors rapatriez tout, venez produire aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça que c'est assez ambivalent. Simplement, c'est là que la stratégie de Trump manque beaucoup de cohérence. C'est-à-dire, si vraiment l'objectif est de réduire le déficit commercial, à ce moment-là, il faut tenir compte que c'est pas par la politique commerciale qu'on influe là-dessus, parce que c'est un problème macroéconomique d'équilibre entre épargne et investissement. Et ça, au contraire, en faisant du déficit public, il l'a accru. Et d'ailleurs, le déficit commercial actuellement des États-Unis s'aggrave.
Alors le fait que l'économie américaine risque de souffrir dans les prochains mois de cette bataille commerciale qui, on l'a compris, ne fait que commencer, est-ce qu'il faut en conclure que, comme le font de nombreux commentateurs, Trump en réalité ne comprend rien au fonctionnement de l'économie mondiale, Jean-Éric Brunat?
C'est un jugement de valeur, bien évidemment, mais jusqu'à maintenant, on va dire que tout ce qu'on a dit sur Donald Trump s'est cassé les dents quelques mois après. Rappelons-nous quand même que les plus éminents économistes, pendant la campagne de Donald Trump, expliquaient qu'il y aurait une récession dans les 12 mois aux États-Unis, ce qui n'est pas arrivé. Ensuite, on a entendu que ça serait dans les 18 mois. Bon, aujourd'hui, on explique que ce sera dans les 2 ans et demi. En réalité, on n'en sait rien. On n'en sait rien, et ça a été très bien souligné auparavant. D'abord parce que tout ça est éminemment compétitif et sensible. Aujourd'hui, dans la compétition, comprenons, quand un téléphone Huawei arrive aux États-Unis, il est en compétition avec le iPhone, c'est à quelques dollars que ça se situe. Donc, les droits de douane, bon, on peut les rajouter très bien, mais la moitié des composants viennent d'un côté ou de l'autre. Enfin, un Apple aujourd'hui, un iPhone, vient directement de Chine avec des composants qui viennent de là-bas et on ne peut pas les taxer. Et Donald Trump ne les a pas taxés d'ailleurs. Il a bien pris soin de faire attention à tout cela. Donc, je ne me permettrai pas de dire qu'il comprend ou il ne comprend pas l'économie. Je vais laisser ça à mes éminents collègues qui vont avoir un jugement plus ferme que moi à ce sujet. Je me borne à constater que jusqu'à maintenant, c'est plutôt gagnant pour ce qui est du symbolique et du politique. Pour le reste, c'est vrai que je me borne à regarder les chiffres et que je vois aussi que le déficit a augmenté à 568 milliards de dollars l'année dernière, alors qu'il était à 516 l'année précédente. Donc Donald Trump a échoué sur cette partie-là, puisqu'il n'arrive pas à faire reculer le déficit, bien au contraire. Et qu'effectivement, il semble qu'il y ait un pédalage qui soit difficile. Juste un mot à rajouter quand même. Faisons attention, il y a des élections dans 30 jours. Et ces élections sont très importantes, puisque aux États-Unis, n'oublions pas qu'il n'y a pas qu'un président, il y a aussi un congrès. Or, la Constitution américaine a pris soin de séparer les pouvoirs entre au moins ces deux branches. Et pour ce qui concerne le commerce et les taxations, c'est le Congrès qui a la main et la Chambre des représentants qui est prépondérante, puisque c'est elle qui a la maîtrise. C'est premier article, section 8 et section 7 qui définit cet ensemble.
Chambre des représentants qui pourrait être prise par les démocrates.
Qui a de grandes chances d'être prise par les démocrates. On peut même se lancer maintenant, puisque les projections en sont là. C'est pas le cas pour le Sénat actuellement, mais ça pourrait. S'il perdait les deux chambres, vous oubliez sa politique économique. Elle sera, bien qu'on ait un désaccord avec mes collègues là-dessus, mais pour moi, elle sera totalement à l'arrêt. Mais elle sera freinée si les représentants sont désormais en majorité démocrates.
Jean-Marc Vittori, sur les compétences économiques de Donald Trump.
Alors, non, moi je pense qu'il ne comprend pas l'économie mondiale. Je pense que ça ne l'intéresse absolument pas. Voilà, c'est tout. Ce qui l'intéresse, c'est encore une fois, les victoires qu'il va pouvoir montrer auprès de son électorat. Pour ça, il change complètement les règles du commerce mondial, hein, depuis près de trois quarts de siècle. Et on avait mis un système à l'instigation des Américains où on négociait les questions commerciales de manière multilatérale, hein, entre pays, entre groupes de pays. Puis l'organisation est devenue de plus en plus impressionnante, jusqu'au point d'ailleurs de ne plus parvenir à avancer. Mais c'est comme ça qu'on qu'on devait avancer. Donald Trump, il dit non, ça c'est fini, on va pas fonctionner comme ça je peux pas gagner. Donc on va négocier, c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure, de manière bilatérale, donc pays par pays. Il arrive dans chaque pays, il dit voilà, je vous achète tant, je suis votre premier client, si vous me faites pas de meilleures conditions, je vais vous acheter moins. Et il négocie pays par pays. Donc ce faisant, il est en train de casser la mécanique commerciale qu'on a mis en place depuis trois quarts de siècle. On va vers autre chose. Il y a d'autres raisons d'ailleurs qui poussent à ce qu'on aille vers autre chose. Mais ça, il s'en fiche, c'est pas dans son champ.
On voit en tout cas que l'économie chinoise et l'économie américaine sont évidemment très interdépendantes. Le secteur automobile aux États-Unis estime que les mesures annoncées par l'administration Trump pourraient faire perdre jusqu'à 700 000 emplois aux États-Unis. Et le secteur agricole américain, dont il faut rappeler que c'est quand même l'un des grands viviers d'électeurs de Trump, commencerait aussi à souffrir de cette guerre commerciale. Ce sont les secteurs automobiles, agricoles qui pourraient le plus souffrir, Sébastien Jean ?
Ils sont très en pointe, effectivement. L'agriculture américaine, certaines grandes cultures, on a la moitié de la production qui est exportée. Et donc, évidemment, là, d'ailleurs, le produit qui représente la plus forte exportation, ça dépend des catégorisations douanières, mais c'est le soja. Et donc, ça a représenté 13 milliards de dollars en 2017, les exportations américaines vers la Chine. Donc, ça a causé un vrai problème. Et d'ailleurs, Trump a accordé des subventions à hauteur de 12 milliards de dollars aux agriculteurs, pour essayer de les compenser de cet effet. Enfin, il essaie vraiment de gérer les retombées politiques, disons, de ces problèmes-là. Ensuite, c'est assez large, ça touche pas mal de secteurs. Maintenant, on voit effectivement que l'automobile est devenu un peu en politique commerciale ce qu'était l'agriculture dans les années 80-90, c'est-à-dire le secteur clé qui est le plus important. Et donc, une des concessions les plus importantes qu'il a obtenues dans l'ALENA, c'est le fait de rendre plus restrictives les règles d'origine qui contraignent les composants qu'on utilise quand on fabrique des voitures pour ensuite les réexporter au sein du marché commun. Alors bon, c'est les règles en fait qui avaient été atteintes proposées dans le partenariat transpacifique, mais bon voilà, l'idée c'est quoi ? C'est de contraindre les autres pour empêcher qu'ils aillent trop se fournir à l'extérieur et que tout ça reste en famille. Là où, si vous voulez, ça bute aussi sur des questions de cohérence, c'est que cette contrainte-là, elle va diminuer la compétitivité de ce secteur automobile nord-américain par rapport à l'extérieur. Et donc, les exportations vers les pays tiers, à terme, elles vont pas augmenter. Il est en train, là, de faire, c'est un peu une des limites de sa stratégie, de l'Amérique du Nord, une sorte de zone un peu isolée à prix élevé par rapport au reste du marché mondial.
Pour vous, Jean-Éric Branaa, le retour de bâton de ces taxes imposées par les États-Unis devrait finalement être plus politique ou diplomatique qu'économique pour Donald Trump ?
Ah, pas forcément, non, je pense qu'il peut y avoir des retombées très économiques. On se souvient quand même des précédents aux États-Unis. On va prendre le dernier, le Smoot-Hawley en 1930. Donc là, on a des taxes à 59% et à cette époque-là, ça aurait pu marcher si personne ne réagissait, mais tout le monde a réagi. Donc tout le monde s'est mis à monter les prix et effectivement, ça a fait que l'économie américaine s'est trouvée étranglée. Je crois que la stratégie Trump est exactement dans cette problématique. Si personne ne réagit, ça marche formidablement bien et il est le meilleur négociateur du monde. Si tout le monde se met à réagir, tout le monde s'écroule.
En l'occurrence, donc, il se heurte à l'Union européenne et à la Chine, principalement.
Exactement, principalement, puisqu'il vient de régler le problème en Amérique du Nord. Mais là, il a mis quelques garde-fous. En tout cas, on voit qu'il met des garde-fous. Donc, il y a quand même l'exemple de l'histoire qui est, par exemple, Sébastien nous expliquait ce qui se passait avec le nouvel ALENA. Il y a quand même l'article 32 qui est quand même très important, puisqu'il a expliqué dans cet article, enfin, il a fait mettre dans cet article, s'il se tournait vers la Chine, je parle du Canada et du Mexique, à ce moment-là, ils pouvaient se retirer unilatéralement et immédiatement du marché nord-américain, ce qui est un outil d'une force extraordinaire pour empêcher les petits copains d'aller travailler avec les Chinois.
Les États-Unis empêchent de futures alliances contre eux ?
Je suis tout à fait d'accord, c'est très révélateur cet article, cette façon de mettre dans l'ALENA un article contre la Chine. Et c'est tout à fait symbolique de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire là, j'ai le sentiment, en tout cas, là, le recentrage de la politique américaine, de la politique de Trump contre la Chine. Et là, en fait, moi j'interprète surtout cette disposition comme étant une façon d'essayer de s'assurer que la Chine ne va pas intégrer le partenariat transpacifique qui a été signé par les anciens partenaires des États-Unis sans eux. parce que c'est une crainte qu'il a. Et c'est pour ça que je disais, j'ironisais sur le fait que ça rappelle la stratégie d'endiguement d'Obama. Hein, c'est vraiment d'endiguement par rapport à la Chine.
Le traité transpacifique dont Trump était sorti en arrivant au pouvoir.
Voilà, et qui avait été conçu par l'administration Obama comme une politique d'endiguement par rapport à la Chine. Quand
c'était
même,
tous les pays de la région asiatique, hors Chine, en gros.
Voilà, enfin une bonne partie de cela, en effet. Et notamment Canada, Mexique et Japon, avec qui il négocie un accord maintenant. Simplement, il me semble qu'on est en train de... La question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment qu'est en train de devenir ce conflit entre les États-Unis et la Chine. On a vraiment le sentiment que maintenant, le commerce est un aspect d'une confrontation géopolitique frontale. D'ailleurs, dans la stratégie de sécurité nationale publiée par les États-Unis il y a un peu moins d'un an, la Chine était identifiée comme concurrent stratégique. Et voilà, la question aujourd'hui, pour moi, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer dans une sorte de guerre froide économique qui pourrait se prolonger longuement? Ça, c'est une hypothèse. L'autre, et elle n'est pas exclue non plus, c'est que tout d'un coup, dans quelques mois, Donald Trump vient de sonner le clairon en disant « j'ai un accord merveilleux avec la Chine parce que j'ai obtenu ceci, cela ». Et il y a une grande incertitude aujourd'hui pour moi.
Comme tag de Champion Jack Dupree, vous êtes sur France Culture et on parle des soubresauts du commerce mondial avec Jean-Marc Vittori, Jean-Éric Brana et Sébastien Gendre. Entendez-vous l'écho? Alors comment est-ce que l'Europe se situe dans ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis? Est-ce qu'elle pourrait en retirer un certain nombre d'avantages, Jean-Éric Brana?
Je crois que l'Europe est entre... la pierre et l'enclume, entre le marteau et l'enclume, c'est bien ça l'expression. Et c'est quand même assez compliqué pour l'Europe actuellement. Alors d'abord, il y a des négociations directes qui se font avec les États-Unis. Nous aussi, nous sommes quelque part dans la guerre commerciale et c'est une guerre loin d'être gagnée puisque les intérêts des Européens sont très divergents. Et même si on a entendu sur tous les tons que ce serait formidable si l'Europe formait une unité et parlait d'une seule voix, on en est quand même bien loin. Ce qui fait que les Américains ont un avantage stratégique stratégique non négligeable, je crois, dans cette guerre, ne serait-ce que parce qu'il y a le problème des voitures en Allemagne et qu'il y a chez nous l'agriculture et que là, c'est déjà deux points forts sur lesquels on aimerait avoir une différenciation. Et puis, dans la guerre dont nous parlions tout à l'heure, le volet de la guerre dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire avec la Chine, il est vrai, et Sébastien l'avait un petit peu évoqué, que s'il y a des produits qui ne peuvent plus se vendre sur le marché américain, mais il y a de fortes chances qu'ils arrivent en Europe et pourquoi pas, même sera certainement à prix cassé, ce qui va être très difficile pour notre industrie et notre commerce.
Pour l'heure, l'Union européenne a échappé à ces taxes sur les importations automobiles. Ça a été négocié entre Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et Donald Trump à la fin du mois de juillet. Pour l'instant, l'Europe est protégée.
Non, je suis désolé. L'Europe n'a échappé à rien pour l'instant. Cette enquête est en cours et les États-Unis n'ont pris aucun engagement clair. On est toujours sous le coup de droits de douane sur nos ventes d'acier et d'aluminium envers les États-Unis. On est bien embêté par ce conflit. En gros, les États-Unis, Trump nous met la pression. On est bien embêté parce qu'on n'a aucune envie de se frotter aux Américains là-dessus. Et lui, il est notamment obsédé par le déficit commercial et les automobiles. Comme les Allemands vendent énormément de voitures aux États-Unis, il est exaspéré par ça, Trump. Et donc, il y a l'impression un peu qu'il fait une fixation là-dessus. Donc c'est un problème. Hein. On n'a rien à gagner, nous, Européens, là-dessus. Surtout, c'est un problème parce que dans le même temps, on partage tout à fait les préoccupations des États-Unis sur la Chine. C'est-à-dire que la Chine a une économie qui est étroitement coordonnée par l'État et le parti, qui croit et qui s'améliore dans ses capacités concurrentielles à une vitesse extravagante et qui a fixé des objectifs de devenir dominant dans des secteurs sensibles à l'horizon 2025. Pour nous, c'est un vrai défi. Hein. Et le vrai défi, c'est quoi? C'est pour nous, Européens, simplement de s'assurer qu'il y a une concurrence équitable. C'est pas de freiner la Chine, même si je sais bien qu'aux États-Unis, justement, il y a pas mal de gens qui aimeraient brider la Chine parce que le conçoit vraiment dans une rivalité. Pour nous, Européens, je crois que c'est avant tout le défi d'établir une concurrence équitable, de faire en sorte que ce qui s'est passé dans les années 2000 dans les panneaux solaires où notre industrie a été inondée et engloutie par la concurrence chinoise lourdement subventionnée ne se répète pas demain dans l'automobile, par exemple.
Jean-Marc Vittori, est-ce que ce défi que représente la Chine pourrait remettre à l'ordre du jour le fameux TAFTA, donc ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis?
C'est l'une des possibilités. Je ne suis pas sûr. Mais moi, je trouve que c'est très savant ce qui vient d'être dit. Mais je pense que dans la tête de Donald Trump, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump là-dessus? Il y a le gros déficit des États-Unis. Celui-là, il est vis-à-vis de la Chine. Il y a 30 ans, il était vis-à-vis du Japon. Il y a 30 ans, Donald Trump s'était payé une page de publicité dans le New York Times pour dénoncer les surplus japonais. Maintenant, les surplus sont chinois. Donc, le premier truc, c'est clairement le gros déficit, c'est la Chine. Et puis ensuite, il y a le gros symbole, c'est l'automobile. Et il l'a dit, alors il l'a pas dit il y a 30 ans, mais il l'a dit à plusieurs reprises, bien avant d'être élu président, que toutes ces Mercedes qui circulaient dans les rues de New York, alors qu'il avait jamais vu une Lincoln dans les rues de Berlin, ça l'agaçait beaucoup. Et donc, il va fatalement venir à l'automobile, et donc là, ça va être, avec l'Europe et en particulier l'Allemagne, que ça va être frontal. Et encore une fois, il mélange des mauvais arguments et des bons arguments. Parce que les automobiles européennes qui sont exportées aux États-Unis, quand elles arrivent aux États-Unis, elles sont taxées à 2,5%. Les rares automobiles américaines qui sont importées en Europe, elles sont taxées à 10%. Donc là encore, il va mélanger de la rhétorique et une vraie asymétrie.
Alors, ce qu'on constate, c'est que les États-Unis privilégient une approche bilatérale dans la négociation des traités, plutôt que le multilatéralisme. Qu'est-ce que Trump reproche aujourd'hui à l'Organisation mondiale du commerce, Jean-Éric Brana?
Ah ben tout. C'est une organisation qui ne devrait pas exister, voilà. Et qui, de toute façon, moi je prédis depuis assez longtemps, sans avoir boule de cristal, qu'ils vont quitter l'OMC. Ça n'a absolument aucun intérêt pour Donald Trump, tout simplement parce que ça bride son autorité, et vous avez bien compris que les règles internationales, je vais dire simplement, l'agacent, pour ne pas dire autre chose. Donc effectivement, à partir du moment où il explique que l'OMC a permis à la Chine de se développer presque sans foi ni loi, en tout cas en bafouant les règles qui étaient à l'origine de l'OMC, il ne voit pas trop pourquoi l'OMC devrait perdurer selon ces règles-là.
Sachant que ce sont des critiques qui sont partagées par les Européens.
Et qui ont été reprises même par notre président, d'ailleurs, qui a été assez convaincu convaincu par ses arguments, et on se souvient quand même que depuis son voyage à Washington, il ne manque pas une occasion de rappeler qu'il est d'accord avec Donald Trump sur ce point-là et qu'il y a une vraie réforme à mettre en marche, réforme qui a intérêt à arriver très vite si on veut garder les États-Unis au sein de l'OMC, parce que sinon, effectivement, un matin, on va se réveiller avec l'annonce fracassante dans Rose Garden comme quoi les États-Unis quittent l'OMC.
Alors justement, l'OMC peut-elle encore se réformer, Sébastien Jean? Les pays du G20, les États-Unis y compris, ont annoncé mi-septembre une réforme de l'organisation.
Disons, ils ont affiché une volonté commune de travailler. Et d'ailleurs, la Chine a aussi l'a partagé avec l'Europe. C'est un dossier compliqué. Donc, on partage certaines des récriminations de Trump envers l'OMC, pas toutes, loin de là. Et celles qu'on partage, c'est principalement par rapport à la Chine, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Et principalement, enfin, en mon sens, les plus importantes, elles sont relatives aux règles entourant les subventions. Et c'est d'ailleurs un peu complexe parce que ce qui s'est passé avec la Chine depuis son accession, ça n'est pas qu'elle a triché avec les règles. C'est qu'elle a adopté des politiques qui n'étaient pas contraintes par les règles. En fait, dans la négociation des règles de l'OMC et de l'accession de la Chine, on n'avait pas imaginé ce que deviendrait l'économie chinoise parce qu'elle a changé beaucoup depuis son accession et puis qu'elle a, à la fois qualitativement et puis en taille aussi. Hein, donc voilà, c'est ça le défi aujourd'hui, c'est un défi extraordinaire. Au fond, Trump nous crée une position de négociation, un levier de négociation sur la Chine parce que il leur fait comprendre que le statu quo n'est pas garanti. Or, le statu quo, c'est très confortable pour la Chine. Idéalement, pour eux, on ne change rien, on continue, tout va bien. Donc, il crée cette... Bon, on n'est pas d'accord avec la méthode, mais il crée effectivement cette position de négociation. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et est-ce que les Américains vont même accepter de négocier? C'est pas évident du tout aujourd'hui. C'est un défi, mais je crois qu'il faut le relever. Il faut essayer de le relever, surtout pour essayer de fournir une solution de repli le jour où Donald Trump changera d'avis. Pas forcément pour le convaincre, mais pour préparer le jour où lui-même se dira « bon, c'est une impasse, j'essaie de trouver une sortie ».
L'argument contre l'OMC que l'Union européenne ne partage peut-être pas avec les États-Unis, c'est la question de la partialité de son organe juridictionnel, l'ORD, l'organisme de règlement des différends. On sait que les États-Unis bloquent la nomination de nouveaux juges, donc on va vers peut-être une disparition de ce fameux organisme.
Oui, tout à fait. Hein. Il faut je crois qu'il y a 9 juges, il y en a 3, il y en a 4 actuellement, il faut qu'il y en ait au moins 3 pour que la cour d'appel de cet organisme puisse statuer. Je crois que c'est fin 2019. Fin 2019, il n'y a plus que 2 juges et les États-Unis bloquent la nomination de nouveaux juges. Et donc, cet organe, vous allez dire, c'est quelque chose d'affreusement technique, c'est la seule institution qui fonctionne aujourd'hui réellement au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Hein, c'est celle qui règle les différends, comme l'indique son nom, entre des pays.
Il y a de plus en plus de dossiers qui lui sont soumis.
Risque de disparaître. Alors, il y a des réflexions qui sont en cours au sein de l'OMC pour imaginer un fonctionnement sans les États-Unis. Mais c'est évidemment des choses qui ne peuvent pas se régler en quelques mois.
Et alors, quelles peuvent être les conséquences de cette bataille commerciale, de ces batailles commerciales dont on a parlé sur la croissance mondiale? Le FMI, la Banque mondiale ou encore l'OCDE s'en inquiètent, Sébastien Jean.
Oui, alors ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que il y a la plus grande incertitude sur même ce que va être la nature de l'évolution de ces mesures. Hein. Ensuite, comment est-ce qu'elles se transmettent? D'abord, je pense que la première caractéristique de la période actuelle, c'est que ça crée de l'incertitude. Et donc, l'incertitude, c'est mauvais pour l'investissement. Aujourd'hui, il est difficile de voir les impacts économiques. Pourquoi? Parce que on l'a rappelé tout à l'heure, il y a une politique de relance aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, assez forte. Donc, ces coupes fiscales qui ont été votées par le Congrès américain à l'initiative de Trump en décembre dernier, elles ont un effet dopant, si vous voulez, sur l'économie américaine aujourd'hui. Donc, il est difficile de démêler. Donc, l'économie américaine aujourd'hui va bien. Voilà. Est-ce que l'effet déstabilisant va se matérialiser dans les mois à venir? C'est une question. Est-ce que ça va faire remonter l'inflation suffisamment pour inciter la Fed à accélérer le relèvement de ses taux et potentiellement à avoir des répercussions sur les marchés financiers? C'est une autre question. Est-ce que le manque de débouchés des industries chinoises va amener une baisse des prix sur les marchés mondiaux et potentiellement propager justement cette crise économique? troisième question. Voilà, c'est des points d'interrogation, ma réponse, je suis désolé, mais on en est là.
C'est ce qu'il nous faut, Jean-Éric Brana, sur les conséquences sur la croissance mondiale et peut-être sur ce qui pourrait se passer après le 6 novembre, après les élections de mi-mandat. Est-ce que cette guerre commerciale pourrait s'apaiser dans les mois qui viennent?
Alors, je partage les mêmes interrogations et j'en disais déjà un mot tout à l'heure, mais effectivement, il y a quand même ce côté structurel intérieur américain qui fait que les élections américaines peuvent changer beaucoup de choses. Alors là, c'est de la politique et c'est vrai qu'actuellement, la politique américaine est dans une logique d'opposition. Il faut faire chuter ce président quand on est démocrate et quel que soit le risque pour une grande partie des démocrates qui vont être élus, puisque beaucoup d'entre eux vont être novices avec un premier mandat et ne vont pas avoir la prudence des vieux briscards de la politique qui pour la plupart seront partis du Congrès. Donc tout est ouvert en réalité de ce côté-là aussi et il peut y avoir des grands bouleversements.
Jean-Marc Vittori, d'un mot, on pourrait dire que Donald Trump a au moins eu le mérite de poser les questions autour d'une possible réforme du commerce mondial ou le fait de devoir repenser ce commerce mondial.
Il a posé des questions qui se seraient posées de toute façon, mais ce faisant. Hein, donc, grosse incertitude sur l'investissement et on commence à voir des décisions d'investissement qui sont suspendues, qui ne sont pas annulées, mais qui sont suspendues. Et puis, le protectionnisme, la fermeture des frontières, ça veut dire de toute façon des hausses de prix et donc moins de pouvoir d'achat.
Merci beaucoup à tous les trois. Sébastien Jean, directeur du CEPI, qui vient donc de publier, je le redis, l'économie mondiale en 2019. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, auteur de Pour une gouvernance mondiale, paru aux éditions Autrement. Et merci aussi à vous, Jean-Éric Brana, chercheur associé à l'IRIS. Votre livre, je le rappelle, s'appelle Quand l'Amérique gronde, 1968-2018. Et il a été publié chez Priva. Il est presque 14h45 sur France Culture. Et c'est l'heure pour nous de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Le livre que nous avons choisi aujourd'hui s'intitule « Deux siècles de rhétorique réactionnaire » et il est signé Albert Otto Hirschman, économiste dont l'œuvre convoque aussi la philosophie, la politique, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie et la psychologie. Et c'est Jézabel Coupé-Soubéran qui va nous en parler aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en économie financière à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez écrit il y a quelques années « Blabla Banque, le discours de l'inaction » paru aux éditions Michalon. On y reviendra. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce penseur iconoclaste qu'est Albert Hirschman ?
Oui, Albert Hirschman, c'est vraiment un penseur très très impressionnant. C'est un grand intellectuel du XXe siècle. Il est né à Berlin en 1915, dans une famille de la moyenne bourgeoisie. Il s'engage au début des années 30 dans le Parti social-démocrate pour essayer de lutter contre la montée du nazisme. Et puis ensuite, il va être obligé de fuir le nazisme. Sa vie, c'est vraiment une vie très romanesque en fait, hein, parce qu'elle est faite d'engagements, d'exil, de voyages, qui font d'Hirschman à la fois un penseur et un acteur des grands bouleversements du XXe siècle. Et ça, c'est très caractéristique chez lui, cette conjugaison très forte entre la pensée et l'action. Il est dans les deux.
Voilà. Il va s'engager notamment auprès des républicains espagnols, puis ensuite auprès des antifascistes italiens, et il se définit lui-même comme un activiste.
Exactement. Donc il est vraiment dans cette logique de l'action. C'est la pensée pour l'action. Et intellectuellement, c'est véritablement quelqu'un d'inclassable. C'est une pensée hors norme, une pensée libre, subversive. Il est même capable, on y viendra je pense, de retourner sa pensée contre lui-même, c'est-à-dire de la remettre en question.
Alors dans son ouvrage « Deux siècles de rhétorique réactionnaire » publié en 1991, Hirschman montre comment depuis 1789, chaque avancée sociale ou politique a été suivie d'un moment réactionnaire et il s'inspire en cela du sociologue britannique Thomas Humphrey Marshall.
Oui. Alors, ce qui l'intéresse, c'est le discours de ceux qui se sont opposés au progrès social depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen jusqu'à la mise en place de l'État-providence. Et ce qu'il parvient à montrer, c'est que ce discours de réaction face aux réformes politiques et sociales visant à engendrer le progrès social, eh bien, ce discours s'articule toujours autour de trois grandes figures rhétoriques. Et ces trois grandes figures rhétoriques, c'est premièrement l'effet pervers. En gros, l'effet pervers, c'est le remède sera pire que le mal. Le deuxième argument rhétorique des réactionnaires, c'est l'argument d'inanité. Autrement dit, tout ça, ça ne sert à rien, cette réforme ne sert à rien, c'est inutile. Et le troisième argument, c'est l'argument de mise en péril. C'est l'idée que ce que l'on fait pour avancer vers ce progrès social, eh bien, coûtera quelque chose qui a été acquis antérieurement. Donc c'est le « ceci tuera cela » ou « ceci se paiera en termes de cela ». Et ce qu'explique très bien Hirschman, c'est que les conservateurs, les réactionnaires, comme il les qualifie, ne vont pas attaquer de front les progressistes. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ils accueillent une réforme progressiste, par exemple le suffrage universel, en applaudissant plutôt l'objectif de la réforme. Et puis, dans un second temps, eh bien, ils vont s'appliquer à montrer que les moyens mis en œuvre sont mal conçus et que, en fait, eh bien, on obtiendra des conséquences non voulues. Ça repose vraiment sur cette idée-là, hein, de conséquences non voulues, et qu'on obtiendra exactement l'opposé du but recherché.
Et pour cela, Hirschman s'appuie sur les travaux du sociologue britannique Marshall que je citais tout à l'heure. Marshall qui distingue ces trois phases historiques dans l'évolution de la citoyenneté. L'acquisition des droits civils qu'on peut assimiler aux droits de l'homme au XVIIIe siècle, l'acquisition des droits politiques au XIXe siècle et l'acquisition des droits économiques et sociaux au XXe siècle. Tout cela va donner des exemples à Hirschman et va lui permettre d'étayer sa théorie.
Et effectivement, dans ces trois phases, systématiquement, l'argument d'effet pervers a été mobilisé. Hein, face, par exemple, au progrès vers le suffrage universel, eh bien, l'argument, c'était que, en gros, on va donner la possibilité à une masse inepte, grégaire, à un peuple idiot de s'exprimer. Et donc, forcément, on n'ira pas vers du progrès social, on obtiendra tout le contraire. De la même manière, pour ce qui est de la mise en place des aides aux pauvres, eh bien, ce même type d'argument a été mobilisé. Avec l'idée que ça va aggraver la pauvreté, avec l'idée, par exemple, que si on fixe un prix limite pour le pain, eh bien, ceux qui utilisent de la farine vont l'utiliser à d'autres choses que faire du pain. D'accord. Ou bien c'est l'idée aussi un peu plus tard, au XXe siècle, d'un Milton Friedman qui va vous expliquer que si vous mettez en place un salaire minimum, eh bien ça ne va pas améliorer le sort des travailleurs. Au contraire, ça va créer plus de chômage parce que ça réduira l'offre d'emploi des entreprises. Voilà, c'est ce type d'argument.
Et alors dans quel contexte est-ce que Hirschman écrit ce livre qui est un livre qui est particulièrement engagé ?
Je crois que ce qui mobilise Hirschman dans ce livre, c'est ce qu'il a mobilisé sans doute dans une grande partie de son œuvre. C'est comment faire pour bien vivre en démocratie et comment faire pour assurer la pérennité de la démocratie et comment faire pour organiser le débat démocratique sur des bonnes bases. Et ce qu'il montre, c'est que cette rhétorique réactionnaire, donc qui s'appuie non seulement sur l'effet pervers, hein, mais également sur les deux autres arguments qu'on a mentionnés, notamment l'argument d'inanité qui est beaucoup plus froid que le précédent, qui repose sur une autre représentation du système, qui consiste à dire que tout ce qu'on entreprend comme réforme, là en l'occurrence comme réforme progressiste, eh bien ne servira strictement à rien parce que on se heurte de toute façon à un système qui est absolument irréformable, à un système, si vous voulez, qui n'est pas du tout malléable. C'est comme si le système était représenté comme une sorte de bloc de granit avec des lois impénétrables. Ce qu'il nous montre à propos de l'inanité, de l'argument d'inanité, si on reprend l'argument du suffrage universel ou l'extension du droit de vote, hein, eh bien, c'est l'idée que de toute façon, ça ne sert à rien parce que toute société est divisée en deux couches. D'accord. Donc ça, ce sont des arguments qui sont repris, par exemple, de Mosca ou de Pareto, de Vilfredo Pareto. Hein, l'idée que, de toute façon, la société est gouvernée par une loi impénétrable, avec d'un côté des gouvernants, de l'autre des gouvernés, ou d'un côté l'élite et puis d'un autre côté la non-élite. Et tous ces arguments-là, ces arguments donc mobilisés par les réactionnaires, ainsi que le troisième, la mise en péril, ça tue le débat démocratique. Donc, c'est vraiment un ouvrage, hein, me semble-t-il, sur le débat démocratique. Comment est-ce que l'on parvient à conserver, si vous voulez, la possibilité d'un débat démocratique ? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce débat ne soit pas confisqué par une élite, par une frange qui va faire valoir simplement son raisonnement, ses intérêts.
Et ce qui est intéressant avec Hirschman, c'est qu'à la fin du livre, il reconnaît que les excès de la rhétorique et l'hostilité à toute forme de dialogue ne sont pas l'apanage de ceux qu'il appelle réactionnaires, mais qu'on peut aussi le retrouver chez les progressistes.
Oui, alors ça, je trouve ça fabuleux, moi, chez Hirschman, cette capacité qu'il a à remettre en question sa propre pensée et après, dans son ouvrage, avoir décortiqué la rhétorique réactionnaire en nous expliquant cet argument d'effet pervers, cet argument d'inanité, cet argument de mise en péril, il s'interroge et il le fait partager à ses lecteurs. Et il dit, au fond, j'ai décortiqué la rhétorique réactionnaire, mais est-ce que moi, je ne suis pas enfermé dans une rhétorique progressiste? Alors, examinons cette rhétorique progressiste. Et là, il nous montre qu'effectivement, les progressistes eux-mêmes ont leur rhétorique, ont ce schéma de pensée dans lequel ils peuvent s'enfermer et ils vont ainsi, si vous voulez, surestimer les avantages des réformes au même titre que les réactionnaires vont surestimer les dommages des réformes. Tout ça, il explique vraiment, vraiment très bien. Et ce qu'il nous dit, au fond, c'est que si on veut préserver le débat démocratique, si on veut faire vivre le débat démocratique, il faut que tout le monde puisse s'entendre et se parler. Et donc, il faut s'affranchir de ces rhétoriques qui sont comme des prisons de la pensée. Il nous donne les clés, Hirschman, dans son livre.
Jésabelle Coupé-Soubéran, vous vous êtes largement inspirée de la thèse d'Hirschman pour écrire votre propre livre, Blabla Bank, sorti en 2015. D'abord, dans quel contexte est-ce que vous avez vous-même découvert cet ouvrage?
Alors, pour tout vous dire, en fait, je l'ai découvert sur le tard. Je l'ai découvert, ça devait être en 2012-2013. J'étais membre d'un jury d'agrégation du secondaire. Alors, quand on participe à ces jury, c'est qu'il y a de l'interdisciplinarité. On est avec des collègues, justement, sociologues, historiens, politistes. Et puis, ce jour-là, je faisais passer une épreuve de leçon. Alors, le candidat avait planché de nombreuses heures. Son sujet, c'était l'État-providence en France au XXe siècle. Et quand arrive le tour de mon collègue sociologue, mon collègue lui dit quels étaient, d'après Albert Hirschman, les arguments types de ceux qui s'opposaient aux réformes du progrès social. Et là, le candidat, qui avait été au demeurant très très bon, lui répond sans faillir l'effet pervers, l'effet d'inanité, la mise en péril, et puis il développe tout ça de manière très très claire. Et alors là, moi, j'ai eu véritablement la
révélation.
J'ai aussitôt fait le lien avec le discours, avec les arguments que j'ai rattaché à cette rhétorique réactionnaire des banques face aux réformes de la régulation financière, face aux réformes bancaires. Parce que pour lutter, si vous voulez, contre le progrès de la régulation financière et donc contre le progrès de la stabilité financière, que nous disent les banques? Alors même si le terme est un peu générique, les banques, mais que nous disent les représentants du secteur bancaire, le lobby bancaire? Eh bien, ce sont des arguments du type, la réglementation, fatalement, aura un effet pervers. Si vous demandez aux banques d'avoir plus de fonds propres, eh bien, ça aura des effets pervers, ça va peut-être augmenter le risque des banques, ou bien ça va amener les banques à transférer leurs risques sur d'autres entités, ça va développer le shadow banking. Ça, c'est vraiment argument typique. Ou bien ils vont nous dire que si on régule pas à l'échelle internationale, eh bien, ça ne sert à rien. Comme ça, on ne fait rien.
Argument d'inanité.
Exactement, argument d'inanité. Et puis, l'argument qui est sans doute le plus fort, et dont Hirschman disait que, en ce qui concerne les réformes du progrès social, il est peut-être le moins fort, mais il est très très fort dans le cas de la rhétorique du lobby bancaire, c'est la mise en péril. La mise en péril du crédit, du financement ou de la croissance par la régulation, par la réglementation. Donc, si vous voulez, en gros, ce jour-là, j'ai eu la révélation, je me suis dit, au fond, les réactionnaires d'aujourd'hui, ce sont les représentants du secteur bancaire, c'est le lobby bancaire. Ils luttent contre le progrès de la stabilité financière, comme autrefois des réactionnaires ont lutté contre les réformes du progrès social.
Et comme l'aurait peut-être fait Hirschman, vous soumettez aussi la réglementation à cette exigence d'autosubversion.
Exactement.
De quelle façon?
Ce que je me dis, si vous voulez, c'est que on doit essayer de s'affranchir de ces prisons rhétoriques, de ces schémas de pensée. Il faut aussi bien s'affranchir de la rhétorique du lobby bancaire que s'affranchir également d'une rhétorique trop progressiste. Donc il faut qu'on arrive à communiquer, il faut qu'on arrive à ouvrir le débat citoyen autour de ces questions de régulation financière.
Elle peut être aveugle, elle peut être rigide, cette réglementation, c'est ça que vous dites aussi?
Mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, elle peut avoir de temps en temps des effets pervers. Parfois, il y a des mesures dont on s'aperçoit qu'elles ont été moins efficaces que ce que l'on attendait. Donc, il ne s'agit pas, si vous voulez, de dire que la réglementation va être toujours hyper efficace et qu'elle va réussir à renforcer de manière considérable la stabilité financière. Mais il ne s'agit pas non plus de dire, justement, qu'elle a systématiquement un effet pervers et qu'elle va mettre en péril le crédit à la croissance quand tout cela est totalement contredit par un grand nombre d'études empiriques. Donc, il faut ouvrir le débat.
Et pour vous, de toute façon, l'efficacité de ces réglementations passe par leur expérimentation dans un premier temps.
Oui, bien sûr, il faut se donner le temps de l'expérimentation, mais surtout, je crois qu'il faut ouvrir le débat sur ces questions, et le débat, trop souvent, malheureusement, est confisqué par les représentants du secteur bancaire, donc confisqué par ceux qui ont intérêt à empêcher ces réformes.
Est-ce qu'on retrouve cette rhétorique réactionnaire, comme l'appelle Hirschman, dans d'autres industries que l'industrie bancaire?
Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, si vous voulez, cette grille de lecture qu'il nous donne, c'est une grille de lecture qui permet de décrypter tous les discours de réaction à des réformes. Chez les climato-sceptiques, vous retrouvez exactement aussi cette même rhétorique.
Pour conclure, peut-être, Isabelle Coupé-Soubéran, pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait lire deux siècles de rhétorique réactionnaire?
Pour s'affranchir des schémas de pensée qui empêchent de penser et qui empêchent de débattre sereinement et qui empêchent la vie démocratique.
Merci beaucoup, Isabelle Coupé-Soubéran, maîtresse de conférence à Paris 1. Donc je rappelle votre livre, Blabla Banque, le discours de l'inaction, paru aux éditions Michelon. Un grand merci. La semaine prochaine, on parle raison et déraison en économie. Quelles sont les émotions, les affects qui influencent nos comportements? On en parlera notamment avec Frédéric Lordon jeudi prochain. En attendant, vous pouvez réécouter nos émissions sur franceculture.fr ou vous abonner au podcast. On vous attend également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.